Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 7 mai 2020. Il y a des jours, les marchés sont ouverts et puis en même temps, on a l'impression d'être dans un cinéma juste avant que le film commence. Il y a une montagne de pubs débiles, puis des lancements pour des nouveaux films, et puis on croit que ça va commencer, et puis on vous recolle des pubs, vous vous endormez, et en vous réveillant, on vous dit que le film était nul et que vous n'avez rien raté. C'est exactement ce qui s'est passé pour la journée d'hier. Il ne s'est rien passé, vous n'avez rien raté, sauf que là, vous êtes resté éveillé pour pas grand-chose. Dire qu'on aurait pu dormir plutôt que de regarder bêtement nos écrans. Oui, la journée était aussi passionnante que d'écouter une conférence Covid-19 du Conseil fédéral. Au début, on est excité, puis après 12 minutes, on espère que la télé va imploser en flammes et nous libérer de cet ennui insupportable, surtout parce qu'on n'ose pas éteindre de peur de rater un truc. Je crois que le point d'orgue de la journée aura été les chiffres de l'emploi du secteur privé, les chiffres de l'emploi ADP. On attendait des chiffres pourris, ils ont été effectivement pourris, mais comme nous vivons dans une période particulière, on ne s'étonne plus vraiment de rien, surtout si c'est très mauvais. Depuis le début de la crise Covid, on a cette attitude qui donne l'impression que plus rien de moche ne pourrait nous surprendre. Alors, on ne réagit plus vraiment quand on nous annonce la disparition de 20 millions d'emplois en 4 semaines. On s'y attendait, et puis comme on est toujours beaucoup plus intéressé par les non-farm payrolls de vendredi, on n'allait quand même pas se prendre la tête, alors qu'on aura des vraies réponses vendredi. Pour autant que l'on parte du principe que ces chiffres sont vrais et pas manipulés par le gouvernement américain. Loin de moi, bien sûr, l'idée de mentionner le fait que le gouvernement nous ment et nous spolie. Mais disons qu'ils nous ont habitués à des erreurs plus que douteuses par le passé. Donc du coup, on se méfie. En fait, ce qu'il y a de bien avec le coronavirus, c'est que depuis qu'il est là, on a une espèce de carte. On ne vend pas parce que c'est pas grave, parce qu'on le savait. Un peu comme la carte du Monopoly qui vous donne le droit de sortir de prison sans passer votre tour et comme ça vous pouvez aller sur Zurich Paradeplatz et mettre des hôtels dessus et ruiner les gens qui jouent avec vous. Tout ça pour vous dire qu'hier on n'a pas trop bougé à l'annonce des mauvais chiffres, pas trop bougé parce que nous savions, mais aussi parce que la semaine prochaine on déconfine et il y a comme un optimisme sous-jacent qui bouillonne sous la surface, un optimisme qui nous dit à l'oreille pendant la journée et à notre subconscient pendant la nuit que les gens vont sortir le matin, lundi matin, et se ruer dans les magasins pour acheter tout et n'importe quoi, histoire de faire ce pourquoi nous sommes programmés depuis l'enfance, consommer pour relancer l'économie. Cet effet consommation donnait effectivement une forme de soutien au marché, ce sentiment de protection et du fait que rien ne peut nous arriver, un peu comme ce que ressentent les gens de Gotham City pendant la nuit quand ils savent que quelque part là-dehors, Batman veille à notre sécurité. Non, parce que là, on sait tous que les chiffres de vendredi, les non-farm payrolls, seront tout simplement immondes, mais on n'ose pas vraiment paniquer parce que si lundi la consommation explose, ça compensera nettement la mauvaise nouvelle. Et puis en consommant, on relance tout, on crée des emplois, on fait marcher des entreprises, on aide des gens dans le besoin à retrouver un job. Peut-être même que si on consomme assez, on va trouver un vaccin. Donc croyez-moi, consommer, c'est un devoir civique, notre pierre à l'édifice pour sauver le monde. Alors reste à voir ce qu'on va bien pouvoir consommer. En tout cas, moi, je peux vous dire que depuis 3 jours, je prépare ma liste de courses et de choses que je dois absolument, indispensables, que je dois acheter pour aider à sauver le monde. Et puis, comme ils ont ouvert les drive-in de McDo avant, ça permet au moins de ne pas avoir ça à faire. Là, on va pouvoir se ruer chez Apple, acheter des produits qu'on a déjà, mais la version plus récente. On va pouvoir aller dans les magasins de luxe, acheter des trucs que l'on hésitait à acheter parce que le prix était débile, mais comme depuis 6 semaines, on a enfin compris qu'on ne vivait qu'une seule fois. Soyons fous. Lundi, c'est les soldes. Mardi, on relance l'économie. Mercredi, on va sur EasyJet.com, on réserve les 8 prochains week-ends à l'étranger avec dans l'ordre Barcelone, Madrid, Rome, Paris, Budapest, Berlin, Stockholm et la Corse. Et jeudi, on se fait 4 restos dans la journée pour soutenir le commerce local. Et normalement, dès vendredi, on a recréé tous les emplois perdus durant la crise. Vous imaginez bien qu'avec des arguments pareils, le marché ne peut pas vraiment baisser. Hier, l'Europe a perdu en gros un gros pourcent. Un peu partout, mais sans conviction et de manière très ordonnée. Aux USA, on a terminé en baisse sur le Dow Jones et sur le S&P de 0,9 et 0,7% respectivement, mais le Nasdaq terminait en hausse d'un demi% parce que la techno, c'est trop chouette. On notera que le secteur pétrolier était sous pression. Il était sous pression parce que le baril a tout de même reperdu un demi-dollar. Un demi-dollar qu'il vient d'ailleurs de récupérer dans la nuit, mais si ça nous fait plaisir, on va dire que c'est pour ça. Ce matin, le baril était à 24,40 $ et des poussières. Et l'échéance du contrat juin, c'est le 18 mai. Je dis ça pour ne pas qu'on me dise que j'ai rien dit, non, parce que si on se retrouve avec des stocks de débiles dans une semaine, on va commencer à couiner dans les chaumières. Autrement, il y avait aussi les chiffres trimestriels de Lyft, le concurrent d'Uber. Il a fait mieux que prévu, il prenait 16%. Et Beyond Meat a fait pareil avec une hausse de 26%. 26% de hausse pour une boîte qui vend de la fausse viande et 16% de hausse pour une boîte qui fait des faux taxis. On vit une époque absolument formidable. Ce qu'il y a de rassurant, c'est que même si en surface le marché semblait calme et désintéressé, on se rend compte tout de même qu'il se passe entre deux tweets de Trump et d'Elon Musk, il se passe quand même deux ou trois trucs de taré. Taré comme le prénom du nouveau fils d'Elon Musk. Alors je vais pas m'arrêter sur le sujet, mais le prénom que Musk a donné à son fils, ou l'espèce de suite de chiffres et de symboles, on espère juste que c'est une plaisanterie, parce que si ça l'est pas, je commence sérieusement à croire que ce type passe dans le camp des est en train de passer dans le camp des Illuminés et qu'il est en train de devenir un méchant de James Bond et qu'il va finir complètement en vrille. Autrement, ce matin, à l'image du reste, l'Asie ne fait rien. Les trois indices baissent de moins d'1% et semblent dans la même zone d'attente que le reste. Un peu comme si on attendait un signe qui ne viendra pas avant la semaine prochaine. En attendant, l'or repasse sous les 1 700 $. Là, tout de suite, il est à 1 695 et c'est hallucinant de voir que plus il y a des gens convaincus du fait que ce truc doit monter, plus on a l'impression qu'il est dans le coma. Un peu comme si l'or ne pouvait pas monter si on le regarde monter. Il ne peut monter que subrepticement, que si on ne sait pas qu'il monte. Pour le reste, hier soir, Trump a parlé, il a expliqué qu'il était conscient que des gens allaient mourir si le pays sortait de confinement, mais que l'économie devait redémarrer et que le virus disparaîtrait avec un vaccin ou sans vaccin. Selon lui, l'économie va exploser l'année prochaine et qu'il ne sera pas le docteur Doom. D'ailleurs, la place est déjà prise. Pendant que Trump motivait ses troupes, les experts en virologie sur Facebook estimaient que la barre des 100 000 morts serait atteinte dans les semaines à venir aux USA. Au dernier comptage, il y a eu 67 000 morts du Covid depuis le début de la crise. Tesla va commencer à retravailler dans son usine américaine et on pourra enfin acheter des voitures électriques à nouveau. Ouf, quel soulagement! Le doux bruit des pneus qui roulent sur le bitume me manque profondément. Heureusement, là je roule en Zoé, ça me permet de faire un peu le palliatif en attendant que Tesla produise à plein régime. Autrement, les relations entre les USA et la Chine sont en mode détérioration et les States sont en train d'étudier un moyen de sanctionner les Chinois économiquement. Fini le temps où on était potes, qu'on faisait des high-five et qu'on se battait ensemble pour sauver le monde. Biden plonge dans la brèche et monte dans les sondages. Pendant qu'il se profile comme le prochain président, Poutine veut rouvrir la Russie, même si les cas de contagion augmentent tous les jours. On notera aussi qu'il baisse dans les sondages. Ça, par contre, je crois qu'il s'en fout parce que les sondages pour un président en vie, ça compte pas. En Chine, les revenus du tourisme sont en baisse de 60%. Monstre surprise, n'a-t-il pas? Dans la foulée, ils annoncent aussi que les importations sont en baisse de 14% par rapport à la même période l'an dernier. Les exportations repartent et sont en hausse de 3,5%. Et puis, on terminera avec les prévisions météorologiques. Morgan Stanley pense que ce n'est pas bon signe que les investisseurs soient en mode FOMO, Fear of Missing Out, et ça ne présage rien de bon. Ça ne veut rien dire et ça veut tout dire, mais quoi qu'il en soit, ils l'auront dit. Le milliardaire égyptien Naguib Sawiris, oui, moi non plus, je ne connais pas, estime que dans 18 mois, le pétrole sera à 100 $ et il achèterait bien des compagnies aériennes. Et pour finir, le professeur Harvey de l'université de Duke, qui est un économiste qui a toujours tout vu tout juste par le passé, comme quoi ça existe, a déclaré que la récession induite par le coronavirus sera terminée avant la fin de l'année. Moi, je pense qu'il y aura du soleil cet été, mais aussi de la pluie, enfin, des fois. Cet après-midi, il y aura les jobless claims aux USA, et puis aussi quelques chiffres trimestriels comme Teva, Booking.com, ça va être sympa d'ailleurs, Uber et GoPro. Les futurs sont en hausse, et pour être franc, tout le monde semble attendre vendredi avant de faire ou dire quoi que ce soit. Il semble que nous brassions déjà largement assez d'air depuis quelques jours sans en rajouter. Bon, vais vous laisser à votre cours de yoga sur Internet. Moi, je vais me chercher un tuto pour apprendre à pêcher en confinement, et je vous retrouve demain pour la dernière chronique avant libération. Prenez soin de vous, enfin prenez soin de vous encore 3 jours après, on ressort et on fait tout péter.